Bonjour, je suis Dr. Claude Garçon, interniste à l'UCPQ et bienvenue à ce nouvel épisode d'une série de balados destinés aux professionnels de la santé qui œuvrent en diabète et qui portent sur le guide de pratique de l'ADA 2024. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que préconise l'ADA en 2024 pour la nutrition chez le diabétique. Le tout est tiré de la publication Standard of Care in Diabetes, publiée dans Diabetes Care en janvier 2024, dans le chapitre 5, que j'avais décidé de scinder en plusieurs petites sections. Il y a peu, nous avions couvert les recommandations face à l'exercice avec Thierry Godette, kinésiologue, et maintenant nous allons aborder la question nutrition avec Marie-Christine Fortin. Vous pouvez télécharger de façon légale ce balado, ce texte en PDF de Diabetes Care en utilisant le lien contenu dans la description de ce balado. Bonjour Marie-Christine, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-nous de votre parcours professionnel et votre implication en diabète à l'UCPQ et au Centre de diabète.
Oui, bonjour Dr. Garceau, merci beaucoup de m'avoir invité à votre podcast aujourd'hui. Dans le fond, moi, ça va faire un peu plus de 10 ans que je suis nutritionniste ici pour l'UCPQ. À mes premières années, j'ai surtout travaillé sur les unités de soins, donc autant en pneumologie, en médecine interne qu'aux soins intensifs, mais depuis un an, là, je suis exclusivement à la clinique de diabète, puis on s'occupe ici principalement là, des patients diabétiques de type 1 pour l'ajustement là, de l'insuline ou le calcul des glucides, ou les patients type 2 pour l'ajustement là, de leurs habitudes de vie et de leur alimentation.
Il semble y avoir un changement important de l'ADA pour le traitement du diabète en ce qui concerne la nutrition. On ne parle plus vraiment de diète, mais on fait tout l'emphase sur un choix d'aliments précis et on parle de pattern d'alimentation. Qu'est-ce que l'ADA veut dire par là?
Mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on veut plus mettre l'accent sur des diètes ou sur des aliments en particulier. On veut vraiment limiter le plus possible les restrictions alimentaires. Puis on parle plus d'équilibre alimentaire avec une variété d'aliments nutritifs pour que les patients puissent vraiment avoir des habitudes alimentaires qu'ils puissent garder au long terme.
L'ADA nous recommande aussi que tout diabétique ait accès à une nutritionniste capable de donner des conseils et un plan structuré en diabète. Donc, un plan alimentaire structuré, est-ce que ça permet de réduire l'hémoglobine glycée?
Bien, effectivement, Dr. Garceau, on voit que les patients qui ont accès à un nutritionniste puis qui ont des plans alimentaires structurés, ça permet de réduire l'hémoglobine glycée de 1 à 1,9% pour les patients diabétiques de type 1 et de 0,3 à 2% les patients qui sont diabétiques de type 2. Puis, principalement, là, qu'est-ce qui impacte là-dessus? C'est oui, d'avoir des bons conseils, mais aussi quand on est suivi, ben ça donne la motivation pour faire des meilleurs choix ou les outils pour être capable de choisir les meilleurs aliments.
Donc, on vient de voir l'impact d'un nutritionniste, mais quels sont les 3 buts principaux pour l'ADA qui doivent guider la nutritionniste dans l'établissement de son plan alimentaire individualisé?
Dans le fond, dans l'ADA, il y a 3 grands objectifs qu'on retrouve. Le premier, c'est vraiment de favoriser une alimentation avec une variété d'aliments nutritifs dans des portions qui permettent la réduction ou le maintien du poids. Fait que dans ce volet-là, bien, on va plus parler au niveau de l'écoute des signaux de faim et de satiété. Le plan alimentaire doit aussi, dans le fond, favoriser l'obtention de glycémie cible. Donc, on va regarder plutôt les glucides, la tension artérielle et les lipides. Donc, dans ce cas-là, on va regarder plus au niveau du sel, des bons types de gras, puis retarder les complications du diabète. Fait que ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ben, c'est de tenir compte là, des préférences personnelles et culturelles des patients. Donc, c'est sûr que nous, on va toujours individualiser le traitement. Il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde. Et le troisième objectif, ben, c'est vraiment de favoriser une alimentation qui est festive, qui respecte le plaisir de manger, puis justement de limiter le plus possible les restrictions. Donc, ça, c'est vraiment là, ce qui est plus innovateur. Puis effectivement, comme vous le disiez tantôt, la diète, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre le moins possible l'emphase, puis de vraiment y aller sur des habitudes alimentaires saines.
Alors, parlons du poids qui est très important pour l'ADA.
Effectivement, la gestion du poids, c'est très important. Les études nous montrent qu'une perte de poids modeste, mais maintenue dans le temps, bien, ça retarde le passage du pré-diabète vers le diabète. Habituellement, ce qu'on suggère, puisque l'ADA nous suggère, c'est une perte de poids entre 5 et 10 qui met l'emphase, oui, sur l'alimentation, mais aussi beaucoup sur l'activité physique.
Mais une perte de poids comme ça de 5 %, ça amène vraiment des avantages?
Ben oui, effectivement, là, on voit que cette perte de poids-là, souvent, est suffisante pour amener des changements autant au niveau de l'hémoglobine glycée, de la pression artérielle, mais aussi du bilan lipidique. Donc, c'est vraiment ce que l'ADA recommande, une perte de poids minimale de 5 %. Et surtout aussi d'être capable de le maintenir dans le temps. Si on est capable de le maintenir pendant au moins 5 ans, c'est là qu'on voit les meilleurs résultats au niveau de l'amélioration de l'hémoglobine liquide et du bilan lipidique.
Est-ce que les nutritionnistes devraient être ouvertes à l'ajout de la médication pour maintenir la perte de poids ou favoriser une perte de poids supplémentaire? Je pose la question parce que quelques années, c'était un peu tabou.
Bien, effectivement, le point de vue a changé, puis selon l'ADA, puis même selon la majorité des nutritionnistes, maintenant, effectivement, que ça fait partie d'une méthode qui est complémentaire, là. Donc avec les nouvelles molécules qui vont autant améliorer l'hémoglobine glycée que le poids, fait qu'on pense aux tirs hépatites, aux séraglutides, bien, il faut les voir vraiment comme des alliés, puis avoir une approche en complémentarité plutôt que séparément.
Je crois que le métier de nutritionniste s'est amélioré beaucoup dans le sens qu'on vous donne de nouvelles fonctions et puis des nouveaux pouvoirs. En fait, la nutritionniste, d'après nous, d'après l'ODA, devrait être impliquée dans le dépistage et le suivi approprié des patients avec des désordres alimentaires. Est-ce que c'est novateur?
Mais en fait, on le faisait déjà depuis longtemps, là, le dépistage des troubles de l'alimentation. Mais effectivement, autant la nutritionniste que les autres professionnels, les médecins, les infirmières devraient vraiment être à l'affût et s'occuper de faire soit un dépistage ou un suivi des désordres alimentaires, donc autant des troubles de comportement alimentaire qu'aussi des peurs de l'hypoglycémie. Parce qu'en diabète, on le sait que quelqu'un qui a des craintes au niveau de l'hypoglycémie, bien, ça peut faire en sorte qu'il va manger à la fois trop ou trop souvent des glucides, puis ça peut vraiment nuire à son contrôle.
Et donc ça, c'est quelque chose de très important dans une équipe de diabète de faire le dépistage des troubles alimentaires, puis peut-être que la personne la meilleure pour ça, c'est vraiment notre nutritionniste. Pour l'ODA, il semble y avoir plusieurs chemins pour se rendre à Rome, c'est-à-dire, de la perte de poids pour son maintien à 1 ou 2 ans.
Oui, effectivement, là, dans l'ADA, ce qu'on cite, il y a plusieurs exemples, dont la diète basse en calories avec, par exemple, des suspicions de repas, comme on peut dire, peut-être que vous l'appelez souvent plus sous diète liquide. Ça peut être autant la diète méditerranéenne, les diètes faibles en glucides. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a aucune diète qui s'est montrée plus efficace là qu'une autre. Moi, ce que je recherche vraiment quand je fais l'évaluation nutritionnelle d'un patient, c'est de regarder les habitudes alimentaires du patient, puis de trouver quelque chose qui va être capable de maintenir à long terme, parce que c'est vraiment ce qu'on cherche, un maintien à long terme des bonnes habitudes de vie.
Donc, nous allons en parler plus tard, mais l'ADA ne recommande aucune diète. On va y revenir plus longuement. Un des sujets qu'on doit aborder maintenant, c'est l'insécurité alimentaire. Aux États-Unis, c'est encore plus marqué, mais ça nous rejoint rapidement.
Effectivement, depuis quelques années, on l'a vu, tout coûte plus cher, fait que c'est la même chose dans nos paniers d'épicerie. Avant, on pensait que c'était vraiment les gens sous le seuil de la pauvreté qui pouvaient vivre d'insécurité alimentaire. On se rend compte que c'est de plus en plus des gens de la classe moyenne qui peuvent avoir des problèmes au niveau de l'approvisionnement alimentaire. Donc, c'est important dans notre travail de faire valoir aussi, oui, des bons choix d'aliments, mais dans les moyens des gens, en faisant, par exemple, la promotion des fruits et légumes congelés, en conserve, ça peut être les protéines végétales qui coûtent beaucoup moins cher que les protéines animales.
Maintenant, que dire du choix alimentaire entre les groupes d'aliments et ce que propose l'ODA?
En fait, il n'y a pas d'évidence clinique là, qui démontre combien il devrait avoir de pourcentage calorique défini entre les glucides, les lipides ou les protéines. Les recherches démontrent vraiment qu'une variété là, de patterns alimentaires qui sont valables, donc autant la diète méditerranéenne, la diète DASH, les diètes faibles en lipides ou en glucides, ou les diètes végétariennes, dans le fond, ils sont tous acceptables.
Donc, cette nouvelle position d'ODA est vraiment rafraîchissante. Les patients vont aimer. Est-ce que le calcul des glucides est encore dans les cartons de l'ODA?
Bien, en fait, ça va vous surprendre, mais il semblerait, selon l'ADA, qu'il n'y a pas nécessairement de différence entre calcul des glucides strict et des méthodes plus simples de conseils alimentaires, comme par exemple l'équilibre alimentaire selon l'assiette santé ou un plan utilisant l'indice glycémique bas ou une stabilité plutôt en glucides. Dans le fond, il y a même une étude là, randomisée qui a montré que le temps dans la plage chip, donc le temps de l'hyglycémie entre 4 et 10, n'était pas nécessairement différente là, chez les patients qui utilisait un calcul des glucides versus une estimation là plus moins structurée là, de la taille des repas. Donc, surtout chez les patients qui ont peut-être une moins bonne compréhension ou une littératie plus faible, ben, d'aller avec une méthode simplifiée qui va être plus facile à mettre en place au quotidien. Donc, par exemple, si on prend l'assiette équilibrée avec 25 % de protéines, 25 % de féculents et 50 % de légumes, ben, ça semble aussi efficace qu'un calcul vraiment plus strict au niveau des glucides.
Je suis un peu têtu, mais parlons encore un peu des glucides, si vous voulez bien, Marie-Christine. Je pense entre autres aux fameuses diètes basses en glucides qui sont souvent proposées.
En fait, ce que l'ADA nous dit, c'est que effectivement, ces diètes faibles ou très faibles en glucides auraient un impact sur l'hémoglobine glycée puis sur la baisse là, des hypoglycémies oraux. Par contre, ces bénéfices-là seraient uniquement là, valables à court terme là, dans les premiers 12 mois parce qu'habituellement, ils sont difficiles à maintenir dans le temps. Donc, on voit pas d'amélioration et de maintien de ces améliorations-là après 12 mois. Dans le fond, ce que l'ADA nous dit, c'est qu'elle n'est pas contre ces diètes-là, mais elle se questionne justement sur l'efficacité à long terme. Puis c'est sûr qu'il faut prendre en compte aussi que les patients avec des ISGLT2 sont plus à risque là, d'acidocétose. Il y a aussi des contre-indications, donc pour la femme enceinte, la femme qui allait, les patients avec insuffisance rénale ou ceux qui ont des désordres alimentaires, ben c'est pas recommandé d'aller vers ce genre de diète-là. Ce qui est par contre plus clair, ce que l'ADA nous dit, c'est que pour ce qui est des glucides, ben c'est de favoriser justement plus de fibres dans notre alimentation, donc par exemple par l'ajout de fruits et légumes, de produits céréaliers à grains entiers, et de limiter le plus possible les aliments avec des sucres concentrés, donc les breuvages sucrés et les autres aliments transformés.
Bon, ben j'en lance une autre petite bombe. Est-ce que les concepts d'indice glycémique, c'est out en 2024?
Ben en fait, premièrement, qu'est-ce que c'est le concept d'indice glycémique, ben c'est quand on regroupe des aliments qui contiennent des glucides selon leur effet sur la glycémie postprandiale. Donc, par exemple, si je prends 15 grammes de glucides, dépendamment du type d'aliment consommé, si je vais prendre un jus qui contient davantage des glucides simples, des sucres simples, ou si je prends, par exemple, un gruau qui contient davantage des glucides qui sont à digestion lente, ben 15 grammes n'aura pas le même impact sur la glycémie après le repas. Donc, est-ce que c'est un concept qui est out? Moi, je dirais que ça demeure intéressant, mais effectivement que l'impact sur l'hémoglobine glycée est limité, donc autour de 0,15 à 0,5 d'amélioration. C'est sûr qu'il faut penser que ces aliments-là sont pas consommés seuls, sont consommés dans un repas avec des protéines, avec des gras, fait qu'on peut pas juste se limiter à l'interprétation de l'indice glycémique sur notre féculent. Pour ce qui est des ratios insuline-glucides, ben ça demeure un concept qui est valable parce que on voit là, oui, ça a de l'impact, mais encore là, il faut regarder dans quel repas on le prend. Fait que si c'est un repas qui est plus riche en gras ou en protéines, ben nos glucides n'auront pas le même impact sur notre glycémie après les repas. Donc moi, c'est sûr que dans mon travail, quand je rencontre des patients, ben je vais leur expliquer un peu l'effet d'un repas très riche en gras ou très riche en protéines sur leur glycémie après les repas, puis savoir comment ajuster leur insuline ou leur ratio insuline-glucide en conséquence.
Merci de ces explications. Maintenant, parlons-nous des protéines.
Dans le fond, ce que l'ADA nous dit, c'est qu'un plan alimentaire avec une forte restriction en protéines, donc moins de 0,8 kg par jour, c'est pas recommandé. Parce que ça ne retarderait pas le déclin de la fonction rénale, puis ça peut même contribuer à augmenter la sarcopénie, puis on le sait que nos patients diabétiques sont plus à risque de sarcopénie, surtout plus l'âge avance. Donc, il n'y a pas d'évidence non plus pour restreindre les protéines. Dans le fond, l'idéal, c'est de les manger de façon modérée, puis en plus, ben ça améliore la satiété. Nous, ce qu'on recommande, c'est surtout de changer peut-être le type de protéines, puis de favoriser des protéines végétales.
Décidément, les avis alimentaires ont bien changé depuis 30 ans. Ça donne mon âge un peu aussi. Maintenant, parlons du gras alimentaire.
Ben encore là, ce que l'ADA nous dit, c'est que la quantité ou le pourcentage calorique des gras, il est moins important que le type de gras qu'on va consommer. Fait que ce qu'on favorise, c'est de diminuer les gras saturés, les gras trans et d'augmenter les gras insaturés, par exemple avec des huiles, des noix, des graines ou favoriser les produits laitiers, mais en version allégée. C'est vraiment ça, entre autres, que la diète méditerranéenne intègre. Puis c'est là qu'on peut voir des améliorations autant sur l'hémoglobine glycée, sur le bilan lipidique ou sur les tensions artérielles.
Deux petits mots maintenant sur le sodium.
Mais en fait, le sodium, c'est pas compliqué. Les recommandations sont les mêmes que pour la population en général. Donc, on vise 2300 mg et moins. Puis c'est plus vrai qu'on va recommander des diètes très faibles en sodium, donc en bas de 1500 mg par jour, même pour nos patients avec de l'hypertension artérielle.
Ouais, j'aime ça, cet avis. C'est concis et clair maintenant. Que penser des fameux suppléments en vitamines, par exemple?
Mais dans le fond, ce que l'ADA nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'évidence là, qui nous montre que soit des suppléments en vitamines ou en antioxydants auraient une amélioration pour la gestion du diabète ou pour la retarder l'apparition du diabète. Donc, il n'y a pas de recommandation claire à cet effet-là.
Bon, ben, je pense qu'on pourrait fermer une année ou deux chez nos chaînes de pharmaciens qui vendent des produits dont l'efficacité n'est peut-être pas douteuse, mais peu confirmée. Alors, que dire maintenant des publicités sur Internet qu'on voit, aspartame ou non?
En fait, ce que l'ADA nous dit, c'est que les édulcorants, ils amélioreraient pas la gestion du diabète. Puis même pour l'Organisation mondiale de la santé, il y a certains édulcorants qui peuvent être même cancérigènes. Donc, ce qu'on encourage, l'édulcorant pris de façon modérée peut être temporairement une bonne solution dans une démarche de changement de comportement ou pour baisser la teneur en sucre, mais ça devrait pas faire partie d'un plan alimentaire quotidien. Mais en fait, c'est sûr qu'il faut se rappeler que quelqu'un qui prend à long terme la metformine a plus de chances là d'avoir des carences en vitamine B12. Donc, c'est important de la faire doser souvent, surtout chez nos patients avec de l'anémie ou qui ont une prise d'IPP.
Donc, on recommande un dosage annuel chez les gens qui prennent la metformine depuis 4 ans à haute dose et des personnes âgées. Maintenant, autre controverse parce que ça, je voulais me faire plaisir. Que devons-nous penser du jeûne intermittent ou du jeûne partiel qui est tellement favorisé par certains cardiologues de Montréal?
Bien, en fait, premièrement, il existe plusieurs variantes là, au niveau des jeûnes. Effectivement, quand on regarde en tant que tel, ces méthodes-là, ils favorisent une perte de poids à court terme, donc environ de 5 à 8% sur 2 à 3 mois. Par contre, on n'a pas la preuve que c'est efficace là à long terme, puis il serait pas plus efficace non plus qu'une autre diète, qu'un autre pattern alimentaire. Donc ces méthodes-là, ce que l'ADA nous dit, c'est qu'ils demeurent sécuritaires quand ils sont bien encadrés, même chez les patients avec insuline, même chez les patients avec sécrétagone, mais qui devraient avoir un counseling pour diminuer le risque d'hypoglycémie. Puis comme ils sont difficiles à maintenir à long terme, ben il faut vraiment qu'on aille un patient qui soit motivé à le faire. Fait que je pense pas que c'est pour toutes les clientèles. Il faut vraiment sélectionner nos patients puis leur offrir aussi les autres possibilités.
Donc, faire très attention au diabète de type 1 puis aux patients qui ont des symptômes de la GLP-2 parce qu'on a bien documenté dans la littérature des risques de provoquer de l'acidocétose chez certains patients sensibles. Maintenant, Marie-Christine, parce que je peux pas me séparer de vos conseils à viser, parlez-nous des fameux repas de substitution.
Bon, mais en fait, ce que l'ADA nous dit, c'est que oui, effectivement, ils se sont avérés efficaces. Un peu comme l'a dit le jeûne intermittent. Mais à court terme, on voit des améliorations autant au niveau de l'hémoglobine glycée que de la perte de poids. Selon une étude, là, l'étude de vie Look, discuté là dernièrement avec le docteur Trump, mais dans le fond, on voit que sur 3 ans, l'exercice et les substituts de repas là, sous forme de diète liquide, ben c'est efficace pour diminuer l'hémoglobine K, le poids, la tension artérielle et le bilan lipidique. Par contre, encore là, il faut un patient qui est très motivé. Il y a autant des gros impacts au niveau des habitudes alimentaires et de l'activité physique. Oui, à court terme, on voit une amélioration. Est-ce que c'est maintenable à long terme? On le sait pas encore. Fait que moi, ce que je privilégie, c'est vraiment de faire attention, de pas suggérer ça à tout le monde, de le mettre en place avec d'autres variétés de possibilités, puis de bien sélectionner nos patients.
Pour terminer, on demande maintenant aux professionnels de santé d'être vraiment ouverts, d'avoir des stratégies adaptées pour certaines populations. Alors, peut-être me parler de l'immigration au Canada, puisque ça implique aussi.
Bien, c'est vrai, Dr. Garceau, que dans les dernières années, on voit de plus en plus, même à Québec, une clientèle qui est multi-ethnique. Donc, c'est important d'avoir des stratégies qui sont adaptées parce qu'habituellement, ces patients-là n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires, ne consomment pas les mêmes types d'aliments. Puis aussi, par rapport à leur religion, des fois, ont des pratiques qui vont avoir un lien avec l'alimentation, si on pense, exemple, aux périodes de jeûne, au Ramadan. Donc, c'est important de d'aider à ça, d'avoir une certaine connaissance sur ces choses-là. Puis si vous voulez, il y a de nombreuses formations qui sont disponibles en ligne, qui seront bientôt sur le site Cœur Poumon.
Voici ce qui conclut notre épisode du chapitre 5 de l'ADA portant sur les modifications des habitudes de vie. Et vous pouvez réécouter sur la plateforme Cœur Poumon les autres balados portant sur l'exercice, entre autres. Une autre diffusion sur la gestion des habitudes de vie portera sur le tabagisme, la santé mentale, le sommeil et les troubles cognitifs. Je vous rappelle que nos balados sont produits par Cœur Poumon avec un S.ca. Merci de votre écoute. Je suis Dr. Claude Garceau de l'ESCPQ et à la semaine prochaine.